Dans le grenier de Johanna, s'entassent les centaines de toiles de son beau-frère, dont elle vient d'hériter. Certaines sont signées d'un simple prénom, Vincent. Quelques mois plus tôt, le peintre a mis fin à ses jours, à l'âge de 37 ans. Aujourd'hui, tout le monde connaît le nom et la légende de Vincent Van Gogh. Artiste torturé, guetté par la folie, travaillant jusqu'à l'extinction de ses forces, et qui bouleversera l'histoire de la peinture par la fulgurance de ses chefs-d'œuvre. Mais en 1891, ses tableaux n'intéressent presque personne. Pendant sa courte vie, le peintre hollandais n'en a vendu que quelques-uns. Johanna, elle, reconnaît la valeur du trésor qu'elle a sous les yeux. Elle n'a rencontré Vincent que 3 fois au cours des 2 derniers mois qui ont précédé son suicide. Johanna n'est ni peintre, ni critique d'art. Rien ne prédestinait la jeune femme à une telle mission. Pourtant, c'est elle qui va réussir à exposer ses toiles et faire reconnaître au monde le génie de Vincent Van Gogh pour l'éternité.
Mercredi 16h. Radio Libertaire, le Ferry Club.
La Radio Libertaire.
Vous savez, on a... Moi, j'ai jamais eu d'enfant. J'ai élevé une enfant qui n'était pas à moi. Faut pas. Celui-là est à moi. Et alors là, j'ai découvert des choses que j'ignorais totalement. Je me disais, les mondes, c'est embêtant. C'est... Non, les mondes des autres, c'est embêtant. Je sais que c'est un lieu commun de dire ça. Les siens propres, c'est jamais embêtant. C'est un peu comme la peinture. Quand j'étais jeune, je disais la peinture, ça sert à rien. Pourquoi il y a la photographie? J'étais con comme un balai, mais exprès. Avec la plus grande mauvaise foi. Et un jour, en fin 46, je suis rentré au musée de l'Orangerie. Et moi, je savais que devant Gogh, il s'était fait couper l'oreille comme ça. Par une fille. Il s'était coupé l'oreille, il avait donné à une fille dans une maison de tolérance. Dans un bordel. C'est tout ce que je savais de Van Gogh, comme la plupart des gens savent de Beethoven, par exemple, il était sourd. Et je suis rentré, et j'ai immédiatement fondu en larmes, en regardant. Donc c'était un critère fabuleux, puisque je ne savais rien de la peinture. Je ne voulais rien savoir. Ça m'est rentré, ça m'était enfoncé comme un coup de poing dans la tête. Et lui, c'est pareil. Il était ouvert là. Le sens de la vie et la merveille de la maman qui aime son fils. Parce qu'elle l'a fait, parce qu'il sort de là. Et ça, l'homme ne peut pas savoir. Et on voudrait être femme pour avoir ce sentiment d'aimer la plus belle œuvre d'art. C'est plus beau que la musique, ça. La vie, c'est pas mal.
La chaise de Van Gogh, où tu ne t'assieds pas, les souliers de Vincent que tu ne chausses pas, l'oreille de ce mec qui ne t'écoute plus, ces corbeaux dans le blé d'une toile perdue. Je ne m'arrête plus quand je vois la folie. Je fais ces commissions et couche dans son lit. Les larmes de cet arbre inquiet dans la forêt, la chaise de Vincent, de quel bois elle était. Les moutons de la rue se cachent en cache-nez, les ouvriers changent de disque sans débrayer. Je ne m'arrête plus quand je vois la folie. Je fais ses commissions et couche dans son lit. Les pas de cet enfant dans l'enfer de la fac, son sexe et sa vertu, sa pilule et son trac. Quand le vertige la pénètre et la dépasse sous l'œil doux et glacé d'un vieux miroir de passe. C'est à ce moment-là que je perds la folie et que je reste seul avec mes yeux.
Journal intime, 1891. Pendant 18 mois, j'ai été la femme la plus heureuse au monde. Plus jeune, je disais toujours, je préfère avoir un an de bonheur intense plutôt qu'étaler sur toute une vie. Mon souhait a été exaucé, j'ai eu mon grand bonheur. Il me reste maintenant le devoir. En 1891, Johanna vient de perdre son mari. Théo Van Gogh, le marchand d'art, n'aura survécu que 6 mois à son frère. Elle a 27 ans. Il lui faut maintenant reconstruire sa vie. Elle quitte Paris et rentre en Hollande, son pays natal. Elle emménage dans une maison des environs cossus d'Amsterdam. Seule avec son bébé et les quelques 200 toiles de son beau-frère qu'elle vient de faire rapatrier. Elle en déroule certaines, et ce sont de véritables surprises. D'autres sont familières. Elles avaient trouvé leur place sur les murs de l'appartement qu'elle occupait à Paris, avec Théo. Ses préférées, elle les raccroche presque à l'identique. Dans la chambre, les amandiers en fleurs, peints en cadeau pour fêter la naissance du bébé, à qui on a donné le prénom de Vincent. Johanna se met à examiner la correspondance des deux frères. 18 ans de lettres intimes. Il y a là plus de 600 lettres jetées pêle-mêle, parfois sans lieu ni date.
Cher Théo, Mon cher Vincent,
si inclus, tu trouveras une commande de couleur.
Johanna se plonge à corps perdu dans cette lecture. En pensée, je vis totalement avec Théo et Vincent. Combien leur relation était infiniment tendre et aimante. Combien ils comptaient l'un pour l'autre. Comme ils se comprenaient.
Ton envoi de toile est arrivé aussi.
Les lettres ont pris une grande place dans ma vie. Soir après soir, c'était ma consolation. Je ne lisais pas ces lettres avec mon cœur seulement, mais avec mon âme tout entière. Je les lisais, les relisais, jusqu'à ce que Vincent apparaisse clairement devant moi.
Une nuit, à force de lire les lettres de Vincent, Johanna sent une idée se former dans son esprit, une intuition. Les lettres se superposent au tableau, leur répondent.
Je me suis remis au travail, le pinceau pourtant me tombant presque des mains. Ce sont d'immenses étendues de blé sous des ciels troublés, et je ne me suis pas gêné pour exprimer de la tristesse, de la solitude extrême. Je cherche d'habitude à être de bonne humeur assez, mais ma vie est attaquée à la racine même. Mon pas aussi est chancelant. Mon travail à moi, j'y risque ma vie, et ma raison s'y est effondrée à moitié.
Les mots et les couleurs dialoguent entre eux. Les idées et les coups de pinceau. Les sentiments et les traits exubérants. Et si, en comprenant mieux l'homme, on comprenait mieux son geste d'artiste?
Ces derniers jours ici me sont de nouveau comme une révélation de couleurs. Si j'osais m'y laisser aller, à risquer davantage à sortir de la réalité et à faire de la couleur comme une musique de ton.
De toutes les couleurs du vert, si tu préfères, pour aller dans ta vie, quand ta vie désespère, pour t'enfuir loin du bruit, quand le bruit exagère, et qu'il met un champ d'ombre au bout de ton soleil, quand les parfums jaloux de ton odeur profonde s'arrange pour lancer leurs signaux à la ronde et dire que les bois vertueux de l'automne sont priés de descendre et de faire l'aumône de leur chagrin mis en pilule et en sommeil. Superciel qu'on voit du fond des cours avec des yeux super, et quand on voit l'amour lisser ses ailes d'ange et pliant sous l'orage, quand les gens dérangés par la moisson du rêve s'inquiètent de savoir comment les idées lèvent et comment l'on pourrait peut-être leur couper les ailes et la vertu dans le bleu de l'été, quand naissent les idées avec la fleur de l'ange. De toutes les couleurs, du jaune à l'étalage, et dans la déraison, quand Vincent la partage, quand la vitrine du malheur tourne la page, comme tournent les sols devant la vérité. Du jaune dans le vent, quand le pollen peluche bûches à l'heure exacte et fait danser le roc aux ruches. Quand une abeille a mis son quartz à l'heure miel, quand le festin malin semble venir du ciel pour rire jaune enfin dans le supermarché. De toutes les couleurs du rouge où que tu ailles, le rouge de l'amour quand l'amour s'en canaille, au bord de la folie, dans la soie ou la paille, quand il ne reste d'un instant que l'éternel, quand grimpe dans ton ventre une bête superbe, la bave aux dents et le reste comme une gerbe, et qui s'épanouit comme de l'autre monde, à raconter plus tard l'éternelle seconde qui n'en finit jamais de couler dans le ciel. De toutes les couleurs, du noir comme un habit, du noir pour ton amour, du noir pour tes amis, avec un peu de rêve au bout, en noir aussi, et puis teindre du rouge noir les thermidors. Quand Dieu boira le coup avec tous tes copains, quand les maîtres n'auront plus qu'un bout de sapin, quand ils auront appris à se tenir debout avant de se coucher pour tirer quelques coups, et sans doute les 400 coups avec la mort.
C'est une révélation pour Johanna. Les lettres de Vincent doivent accompagner ses tableaux. En mars 1892, elle tente à nouveau sa chance auprès de son voisin, le peintre et critique d'art Jan Vett.
J'ai donné à Jan un premier paquet des lettres de Vincent. Est-ce que je fais bien? Mon Dieu, que puis-je faire d'autre? Je sais qu'il est honnête et je lui fais confiance. Mais c'est si difficile, si difficile. Est-ce que Théo serait d'accord avec ça?
Jan Vett ne lui répond pas. Agacée par cette condescendance, elle ne renonce pas, au contraire. Dès qu'elle le peut, elle écume les galeries et les musées d'Amsterdam, se forme à l'histoire de l'art en autodidacte après ses journées de travail, et elle cherche celle qui pourrait lui servir de modèle. C'est dans la littérature anglaise qu'elle trouve ses inspiratrices. Des pionnières comme Mary Shelley, qui a donné vie à Frankenstein, ou Marianne Evans, qui a réussi à conquérir un large public sous le pseudonyme masculin de George Eliot. Des femmes qui, par leur audace, se sont fait une place dans un monde d'hommes. Cela fait 6 mois que Johanna sollicite les notables et les intellectuels de son quartier. Mais rien n'y fait. La peinture de Vincent ne trouve pas son public. Johanna décide alors de changer de tactique. Ses notables, elle va les persuader un par un. Au docteur Frédéric Van Eeden, psychiatre et critique d'art, elle apporte la toile appelée le Summer. Si le docteur consent à l'accrocher dans son salon très fréquenté, elle finira peut-être par attirer le regard. Et l'influent Jan Vett, il pourra peut-être faire quelque chose. Johanna le contacte par l'intermédiaire de sa femme, Anna, une voisine et amie d'enfance. Elle parvient à lui montrer quelques tableaux.
J'espérais qu'il les aimerait aussi et qu'il m'aiderait. Mais il m'a répondu franchement qu'il ne voyait pas grand-chose en eux. Je ne serai jamais en repos tant qu'il n'appréciera pas les œuvres de Vincent, lui aussi.
Johanna ne désarme pas. Elle s'en va taper à la porte d'un autre critique très renommé, Richard Roland Holst.
Madame Van Gogh est une charmante petite femme. Mais cela m'agace quand quelqu'un s'énerve avec fanatisme sur un sujet dont elle ne connaît rien. Et bien qu'aveuglée par la sentimentalité, pense toujours qu'elle adopte une attitude strictement critique. C'est du bavardage d'écolière, rien de plus.
Condescendance, paternalisme, mépris. Johanna fait l'expérience des préjugés de son temps. Un 19e siècle qui relègue les femmes à un rôle domestique et réserve le prestige intellectuel aux hommes. Dans le secret de son journal intime, elle se révèle d'une triste lucidité.
Quelle est la différence entre Anna Fett et moi? Elle ne cherche pas à analyser sa vie intérieure. Elle a une vie beaucoup plus facile que la mienne. Et puis combien son mari l'a façonnée. Nous, les femmes, sommes pour une part considérable ce que les hommes attendent que nous soyons.
Il faut se rendre à l'évidence. Johanna n'est personne. Dans ces Pays-Bas corsetés, comment pourrait-elle mener à bien la mission que Théo lui a confiée? Elle, l'enfant poli d'une famille d'assureurs, la romantique, pianiste accomplie et diplômée en littérature anglaise, l'épouse candide, dont les connaissances artistiques se résument au léger bagage transmis par son mari. Lui, Théo, issu de la famille Van Gogh, où de génération en génération, les hommes rivalisent d'éloquence et d'autorité, se sont fait pasteurs ou marchands d'art. Vincent, lui, a osé s'écarter de la voie tracée. Théo n'a pas dérogé à la tradition.
Avant de passer l'arme à gauche, avant que la foule me fauche, tel jour, telle heure, en telle année, sans fric, sans papier, sans notaire, je te laisse ici l'inventaire de ce que j'ai mis de côté. La serviette en papier où tu laisses à ta bouche ma mèche de cheveux quand il n'était pas gris, mon foulard, quelques plumes et cette chanson louche avec autant de mots que nous avions de nuit. L'oreille de Van Gogh, la pipe de Balzac, cette armée d'anarchie et ses fanfares blêmes, le cheval qui travaille avec son petit sac, où dorment des prairies d'avoine et de carême. Et de carême. L'enfer de Monsieur Dante, où je descends ce soir un paquet vide de Celtic sur la table, quelques stylos à billes au roulement d'espoir, avec dans leur roulis des chansons formidables, le pick-up du tonnerre et les gants de la pluie, la voix d'André Breton, l'absinthe de Verlaine, les âmes de nos chiens en bouquet réunis et leurs paroles dans la nuit comme une traîne, comme une traîne. Le zinc de ce bistrot, nous perdions nos gueules, cette affiche où nos yeux écoutaient des bravo, cette page d'annonce où s'ennuie toute seule notre maison avec mes rêves en in quarto, avant de passer l'arme à gauche, avant que la faune me fauche, tel jour, telle heure, en telle année. Sans fric, sans papier, sans notaire, il est bien maigre l'inventaire de ce que j'ai mis de côté. Mais je te laisse ça comme une chanson tendre, avec ta fantaisie qui fera beaucoup mieux. Et puis ma voix perdue que tu pourras entendre en laissant retomber le rideau si tu veux. Si tu veux.
En rassemblant les quelques affaires de Vincent, Théo retrouve sa dernière lettre, restée inachevée.
Mon cher frère, je voudrais bien t'écrire sur bien des choses, mais j'en sens l'inutilité. Eh bien vraiment, nous ne pouvons faire parler que nos tableaux. Car là nous en sommes, et c'est là tout au moins le principal que je puisse avoir à te dire dans un moment de crise relative. Dans un moment où les choses sont fort tendues, entre marchands de tableaux d'artistes morts et d'artistes vivants. Eh bien, mon travail à moi, j'y risque ma vie, et ma raison y affondrait à moitié. Bon, mais tu n'es pas dans les marchands d'hommes pour autant que je sache et puisse prendre parti. Je te trouve agissant réellement avec humanité. Mais que veux-tu ?
Théo ressasse les derniers mots énigmatiques de Vincent. A-t-il eu le pressentiment qu'après sa mort, sa peinture aurait plus de valeur, que la reconnaissance ne lui serait accordée qu'à titre posthume ? La jeune veuve s'enflamme à la première victoire. Elle se met à rêver de devenir celle qui imposera au monde Vincent Van Gogh. Les premières expositions se montent enfin dans les grandes villes du pays. Pleine d'espoir, Johanna suit leur organisation. Mais elle est vite déçue. Tout a été bâclé. Rien n'est fait comme il faut. À Anvers, les toiles mal éclairées sont empilées à la diable les unes sur les autres, avec pour seule indication « Feu Vincent Van Gogh ». À Amsterdam, la galerie de Wisseling ne trouve aucun acquéreur pour la toile du Petit Cyprès.
Je n'arrive pas à trouver de paix ou de calme en moi. Jan Fett a les lettres. Je n'ai aucune nouvelle de lui. Comment tout cela va-t-il se terminer ?
Les jours suivants, dans son journal intime, Johanna déverse ses angoisses, son écrasante solitude. Est-ce cette même lassitude extrême que Vincent ressentait lui aussi ? Elle repense à leur dernière rencontre. En juillet 1890, lorsqu'il était revenu les voir, à Paris.
Nous étions épuisés par les problèmes de santé de notre bébé. Et Théo reparlait de sa vieille idée de démissionner de Goupil et monter sa propre affaire. Vincent n'était pas satisfait de la façon dont ses toiles étaient rangées. On parlait aussi de déménager dans un appartement plus grand. Ces jours-là étaient marqués par l'inquiétude et l'anxiété. Plusieurs amis sont passés voir Vincent, dont Aurier qui venait d'écrire son célèbre article sur lui. Toulouse-Lautrec est resté pour déjeuner et a fait plusieurs blagues. Guillaumin devait passer, mais c'en était déjà trop pour Vincent. Il ne l'a pas attendu et est reparti précipitamment pour Auvers, épuisé et énervé.
Peu après ce moment de discorde, Johanna rentre aux Pays-Bas avec son bébé, et reste auprès de sa famille le temps de l'été. Elle y attend Théo qui doit venir les rejoindre. Mais Théo ne viendra pas. Le docteur Gachet l'a appelé en urgence au chevet de son frère. Vincent vient de se tirer une balle dans la poitrine.
Ma chère Jo, ma chère femme. Heureusement, il était encore vivant quand j'ai rejoint Auvert. Et je ne l'ai pas quitté avant la fin. Je n'ai pas le courage de tout écrire. L'un de ses derniers mots a été « C'est ainsi que je veux partir ». Cela a pris un petit moment, puis il s'est éteint. Et il a trouvé la paix qu'il ne parvenait pas à trouver sur Terre.
Seigneur, quand froide est la prairie, quand dans les hameaux abattus, les longs angélus se sont tus sur la nature des fleuries. Faites s'abattre des grands cieux les chers corbeaux délicieux, les chers corbeaux délicieux. Armées étranges aux cris sévères, les vents froids attaquent vos nids. Vous, le long des fleuves jaunis, sur les routes aux vieux calvaires, sur les fossés et sur les trous, dispersez-vous, ralliez-vous, dispersez-vous, ralliez-vous. Des morts d'avant-hier, tournoyés n'est-ce pas l'hiver, pour que chaque passant repense. Sois donc le crieur du devoir, ô notre funèbre oiseau noir, ô notre funèbre oiseau noir. Mais saint du ciel, en haut du chêne, m'a perdu dans le ciel charmé, laissez les fauvettes de mai. Pour ce qu'au fond du bois enchaîne dans l'herbe d'où l'on ne peut fuir la défaite sans avenir, la défaite sans avenir.
Johanna a alors une nouvelle idée. Au petit cercle des galeristes et des critiques, elle fait savoir qu'elle met à disposition quelques toiles de sa collection personnelle. Tous les moyens sont bons pour faire circuler les œuvres de Vincent. Quelques mois plus tard, des demandes de prêts arrivent d'un peu partout en Hollande.
Ce matin, je suis allée à la galerie de Wisseling à Amsterdam. J'avais emporté avec moi une toute petite toile de Vincent, mais remarquable. Et maintenant, ils en veulent deux autres pour les proposer à la vente. Quel triomphe ! Je suis si heureuse ! Quand j'ai repris le train l'après-midi avec le petit, le ciel était divinement beau. Le soleil est apparu soudainement derrière les nuages blancs. C'est comme si Théo apparaissait pour se réjouir de la reconnaissance de son frère.
Quand Vincent a choisi de devenir artiste à 26 ans, les deux frères ont scellé un pacte qui jamais ne sera remis en cause. Théo le marchand finance Vincent le peintre. Et en échange, il devient propriétaire de ses toiles. En rencontrant Vincent pour la première fois, Johanna ressent la vive admiration qui lie le marchand d'art au peintre. Elle écoute Théo s'enthousiasmer devant ses dernières œuvres. Ces effets de nuit, ces tourbillons, cette couleur jaune qui domine tout, c'est inédit. La lumière du sud a révolutionné la palette de Vincent. Elle le place dans la lignée des impressionnistes que les deux frères admirent tant.
Il est resté avec nous trois jours. Il était joyeux
et animée tout le temps. Mais Vincent a très vite senti que l'excitation de Paris ne lui faisait pas de bien et il avait hâte de se remettre au travail. Alors, il est parti le 21 mai pour Auvers.
Épouse, mère, nouvelle petite sœur de Vincent, Johanna devient le témoin privilégié de la relation passionnée qui unit les frères Van Gogh. Après la mort de Théo, elle n'a pas le temps de se laisser aller à la nostalgie. Elle veut gagner sa vie. Dans l'esprit de l'époque, on trouve acceptable pour une jeune veuve de tenir une pension de famille. Johanna rénove sa villa et accueille toujours plus de clients. Mais elle n'a pas l'esprit en repos. Il lui reste à honorer une promesse faite à son mari, peu avant sa mort.
Théo m'a appris beaucoup de choses sur l'art. Non, je devrais dire plutôt beaucoup de choses sur la vie. En plus du petit, il m'a légué une autre tâche, l'œuvre de Vincent. La montrer et la faire apprécier au plus grand nombre.
Cette mission, Johanna va tout faire pour l'accomplir. Pensionnaire, voisin, intellectuel de son entourage, elle expose pour tous les toiles de son beau-frère, du salon jusqu'au grenier. Reprenant le combat et les discours de Théo, elle essaie sans relâche de faire pénétrer ses spectateurs, plutôt perplexes, dans l'intimité des œuvres. Comment les convaincre? Leur faire admettre ce qu'ils ont devant les yeux et qu'ils ne semblent pas voir? En particulier ces médecins et ces peintres influents, tous par ailleurs critiques, qui s'enorgueillissent de leurs connaissances supérieures en matière d'art moderne. Ils font la grimace, puis décrètent que les couleurs sont criardes, les traits mal définis, la pâte vulgaire. Ce mépris n'est pas nouveau. De son vivant, Vincent n'a connu aucun succès dans son propre pays. Jugé mauvais en dessin et d'un caractère difficile, rebelle à toutes les conventions. En Belgique, il a abandonné l'école des Beaux-Arts d'Anvers. Puis on l'a trouvé bien prétentieux de vouloir tenter sa chance à Paris, la capitale mondiale de l'art. Johanna, elle, a tout de suite perçu autre chose. L'œuvre d'un homme obstiné et humble, en proie à une passion dévorante.
D'une autre race, ils ne le savent pas. Ils sont d'un autre clan et se mêlent à vous. Les artistes, ils vous tendent leurs mains et vous donnent le bras. Vous les laissez passer. Ils ne sont pas à vous. Les artistes, ils sont le clair matin dans vos nuits des tempêtes. Ils sont le soleil noir de vos étés d'hiver. Ils chantent dans la nuit à vos tempes muettes. Ils plantent la folie au fond de vos galères. Peignent le chagrin dans les coquelicots. Ils écrivent l'amour dans vos chambres glacées. Les artistes, il faut plier le temps sous l'aile d'un oiseau. Il faut passer la vie dans vos accords brisés. artistes. Ils font la loi demain, quand tu vivrais hier, ils décident de tout, quand tu veux les soumettre. Il y a 20 000 ans qu'ils sont à leur fenêtre, il y a 20 000 ans qu'ils crient dans le désert.
Il y a 20 000 ans qu'ils sont à la fenêtre. Il y a 20 000 ans qu'ils crient dans le désert. Les artistes.
Ils sont d'une autre race. Ils ne le savent pas. Ils sont d'un autre clan. Ils se mêlent à vous. Les artistes. Ils vous tendent leurs mains. Ils vous donnent le bras. Vous les laissez passer. Ils ne sont pas à vous. Les artistes, il y a 20 000 ans qu'ils te rentrent dans l'œil, il y a 20 000 ans que tu ne les vois pas, il y a 20 000 ans que tu voudrais les voir, et si tu les voyais, ne te verraient plus. Ce sont des gens d'ailleurs.
Ce sont des gens d'ailleurs.
Ce n'est que 2 ans après la perte de son mari que Johanna sent enfin le vent tourner. À la fin de l'année 1892, les critiques Jan Vett et Richard Roland Host changent tout à coup d'avis sur les œuvres de Vincent et d'attitude envers elle. Les premières lettres de Vincent les auraient-elles convaincues? Chez Johanna, ils viennent sélectionner quelque 85 tableaux et 20 dessins. Ils organisent à Amsterdam la toute première exposition d'envergure consacrée à Vincent. Richard Roland Holst en assure le commissariat et rédige l'introduction du catalogue.
Les expressions de Vincent Van Gogh effrayeront probablement tous ceux dont les goûts sont habituellement assouvis lors des expositions officielles. Cette exposition est destinée à ceux qui croient encore que ce qui peut être saisi de manière immédiate n'est pas toujours de qualité supérieure. Elle est également destinée à ceux qui admirent le travail de Vincent et aussi à ceux qui croyaient déjà en sa haute quête mais n'étaient pas encore convaincus de ses glorieuses réalisations.
Avec ces mots mûrement pesés, Richard Roland Holst prend soin de ménager un public et des critiques encore à conquérir. Certains se disent atterrés par les couleurs violentes. D'autres portent ailleurs leur jugement. Peut-on exposer les œuvres d'un malade mental? À tout cela, le critique propose une autre vision de Vincent. Sur la couverture du catalogue, il le représente comme un tournesol tombant au crépuscule, entouré d'un halo. Avec cet emblème, Richard Roland Holst sème les premières graines d'une légende. Vincent, un martyr sacrifiant sa vie pour la cause de l'art. Johanna laisse parler les hommes influents. Elle n'intervient pas. Dans le catalogue, son nom n'est même pas mentionné. Elle se rend ainsi invisible aux yeux de l'histoire.
L'un des grands événements de cette année a été l'exposition sur Vincent. Cela m'a bien occupée. Mais voici un nouvel hiver devant moi. Il faut que je l'entame avec courage. Qui écrira ce livre sur Vincent ?
Johanna est désemparée. Le jeune Criticorier a été foudroyé à 27 ans par la fièvre typhoïde. Il lui faut donc trouver un autre biographe. Elle s'adresse alors au peintre Émile Bernard, ami de longue date des frères Van Gogh. Vincent l'appelait « copain Bernard ». Johanna lui envoie une sélection de lettres. Émile Bernard les fait éditer à Paris en 1893. Il y ajoute sa propre correspondance avec Vincent et en fait une présentation enthousiaste.
N'est-ce pas plutôt l'intensité de la pensée que le calme de la touche que nous recherchons, m'écrivait-il ? Ce qu'il dit à propos de sa peinture, semblant en excuser à l'avance le débraillé et la fougue un peu folle, je l'applique à ses lettres. C'est la pensée qu'il faut sentir. C'est la vraie vie qu'il y faut trouver. Le calme de la touche n'y est certes pas, mais quelle intensité.
Pour la première fois, le public découvre les origines de la peinture de Vincent. Son geste n'est plus celui d'un aliéné, mais le fruit d'une conception longuement réfléchie, que les mots rendent enfin accessible.
Mon cher Bernard, ayant promis de t'écrire, je veux commencer par te dire que le pays me paraît aussi beau que le Japon pour la limpidité de l'atmosphère et les effets de couleurs gaies. Les eaux font des taches d'un bel émeraude et d'un riche bleu dans les paysages, ainsi que nous les voyons dans les crépons. Des couchers de soleil orangé pâle faisant paraître bleus les terrains. Des soleils jaunes splendides.
La publication d'Émile Bernard agite le monde de l'art. De nouveaux critiques se manifestent. Des collectionneurs sollicitent Johanna. Partout en Europe, le cercle de passionnés s'agrandit à mesure qu'une nouvelle génération de galeristes apparaît, plus audacieuse. Désormais, la couleur de Vincent n'est plus dénoncée comme une aberration, mais célébrée comme une révolution artistique. La publication d'Émile Bernard agite le monde de l'art. De nouveaux critiques se manifestent. Des collectionneurs sollicitent Johanna. Partout en Europe, le cercle de passionnés s'agrandit à mesure qu'une nouvelle génération de galeristes apparaît, plus audacieuse. Désormais, la couleur de Vincent n'est plus dénoncée comme une aberration, mais célébrée comme une révolution artistique. Johanna a gagné son pari. Parmi les nouveaux admirateurs, Paul Cassirer, l'un des plus grands marchands allemands du moment.
Chère madame, il y a quelques années, vous étiez assez aimable de me prêter quelques-unes des toiles de Van Gogh vous appartenant pour une exposition. J'aimerais pouvoir répéter cette opération. Puisque je sais quelques messieurs très intéressés par Van Gogh, je suis certain que cela pourrait être un succès. Financier aussi.
De Berlin à Paris, et dans tous les hauts lieux de l'art moderne, l'héritière s'est enfin fait un nom. Johanna devient la représentante incontournable des œuvres de Vincent. Fine stratège, elle fixe soigneusement les prix et indique les toiles qui ne sont pas à vendre. Ce faisant, elle crée l'envie chez les acheteurs et fait monter la cote de Van Gogh. Johanna se métamorphose en femme d'affaires.
Si mon machin c'est du poulet, la poule au pot doit bien se marrer. Depuis que je touche du nouveau franc, je mets des virgules aux ortolans. Les temps sont difficiles. Cet écrivain n'a pas de client, il vit seul avec son talent. Mais faut bouffer, il faut ce qu'il faut, même si l'on bouffe au Figaro. Les temps sont difficiles. Ou Hallyday, ou Dalida, y'a pas de raison qu'on en reste là. Fous donc bébé dans ta chanson, ça fera chanter tous les couillons. Les temps sont difficiles. Si d'Aznavour j'avais la voix, je pourrais me voir au cinéma. Mais la petite vague m'a laissé là, moi qui me voyais déjà.
les temps sont difficiles. Ma femme veut jouer les présidents. Elle dit que c'est très plébiscitant. Pour lui montrer que je suis un homme, je dois lui dire par référendum, les temps sont difficiles. Le matin c'est oui, le soir c'est non. Elle ne tient pas compte des abstentions. Ni oui ni non, ça fait coup nul. V'là mon scrutin, je garde mes scrupules. Les temps sont difficiles. Quand on n'a pas les mêmes idées, on se les refile, c'est régulier. File-moi ta part, mon petit Youssef, sinon je te branche sur les DF. Les temps sont difficiles. Réponds, dis-moi, où est ton pote, sinon tu vas être chatouillé. Dis-moi, réponds, lâche ta camelote, quand on questionne, il n'y a qu'à causer. Les temps sont difficiles. À Lyon, la soie a débordé le Rhône, c'est foutu en Jersey. C'est comme l'amour quand ça se débine, t'y fous de la soie, il te rend du spleen. Les temps sont difficiles. Pour faire face à la vérité, j'ai poussé jusqu'à la télé où l'on m'a dit, vous demandez qui ? La vérité ? C'est pas ici. Les temps sont difficiles. Avant la guerre, pour être putain, fallait une carte, un bout de terrain, des amis chez la mère Toulasse, un petit copain pour la paillasse. Les temps étaient faciles. Maintenant c'est fini les conneries, faut faire son lit à France jeudi, tâter du Vadim à la une, en attendant montrer sa lune. Les temps sont difficiles. Van Gogh l'a de peindre sa chaise, c'était tout vert une portugaise. Gauguin crevait à Tahiti, dans la mistouffe et dans l'ennui. Les temps étaient bizarres. Van Gogh maintenant vaut des millions, Gauguin se vend mieux que du cochon. Rien n'a changé, on tourne en rond et dure, dure ma chanson. Le temps que je me marre.
Mais il reste toutes ces lettres que Johanna tient à publier dans leur intégralité. Alors pendant 10 ans, elle relit, édite, classe, retire les passages qui pourraient choquer la morale de l'époque et s'attelle à une introduction biographique. Elle y dévoile l'enfance de Vincent, ses premiers dessins, ses désarrois intimes et le dévouement sans faille de Théo. Qui mieux qu'elle pouvait raconter cette histoire ? Enfin, le travail est achevé. Les centaines de toiles qui s'entassaient dans son grenier il y a 20 ans, Johanna a su les montrer et les faire apprécier au plus grand nombre. De son vivant, elle voit apparaître toute une génération de peintres qui revendiquent l'héritage de Vincent. Munch, Kandinsky, Matisse, Klee, Picasso. Et partout dans le monde, une foule toujours plus impressionnante d'admirateurs érige Van Gogh en icône absolue de l'art moderne.
Amsterdam, le 4 avril 1914. Cher Monsieur Gachet, je regrette infiniment de vous causer tant d'embarras, mais je connais votre dévouement au souvenir de Vincent et Théo, et je vous en remercie d'avance.
Johanna a 51 ans. Il lui reste un dernier geste symbolique à accomplir. Elle s'adresse au fils du docteur Gachet pour qu'il l'aide à transférer la dépouille de Théo. À Auvers-sur-Oise, les frères inséparables reposent enfin l'un près de l'autre. Grâce à la discrète et tenace Johanna, les vies de Vincent le peintre et Théo le marchand sont à jamais unies dans l'histoire de l'art. Son rôle à elle a été oublié. Mais sur les tombes des deux frères, aujourd'hui encore, des admirateurs viennent déposer des tournesols jaunes éclatants. La couleur favorite de Vincent, le symbole préféré de Johanna.
C'est ce qui manque dans ce monde. Hein? C'est ce qui manque. L'intelligence. Hein? La connerie, c'est trop vivant, trop présent.